Une consultation citoyenne anticipée sur l'accord de Bougival qui pourrait être organisée en mars et non en février, une des annonces de Naïma Moutchou auditionnée par la commission des lois du Sénat. Comment les jeunes vivent-ils en province sud? L'enquête Bien dans mes claquettes a dévoilé ses résultats cet après-midi. Un timbre pour célébrer la journée internationale du droit des enfants, le gouvernement et l'OPT se sont associés pour sa création et sa production. Une femme de qualité, un pilier du sport calédonien, les hommages sont nombreux suite au décès de Natsumi Wainebengo. Et puis du sport avec du futsal, la SPTD s'est inclinée cet après-midi en Ligue des Champions d'Océanie. Défaite 5-2 contre le Waikato Rapids. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. À la une de l'actualité, la consultation citoyenne anticipée sur l'accord de Bougival qui pourrait être organisée en mars prochain et non en février comme prévu initialement. C'est l'une des annonces faites par la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, qui était auditionnée par la commission des lois du Sénat. C'était dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026, Elisabeth Noir.
La ministre des Outre-mer a rappelé que majoritairement les forces politiques calédoniennes hors FLNKS, souhaite poursuivre la mise en œuvre de l'accord de Bougival avec des éclaircissements éventuels. Elle a souligné que pour redonner sa force à cet accord, qui n'est pas soutenu unanimement, l'organisation anticipée de la consultation a été un élément de la discussion et elle a précisé les modalités de sa mise en œuvre.
Ces 5 forces politiques sur 6 ont souhaité que l'État mette en œuvre cette consultation. Elle était déjà prévue dans l'accord de Bougival. Elle devait être organisée à la fin du mois de février. Elle sera probablement, parce que nous sommes en train de regarder le calendrier, organisée au mois de mars. Elle nécessite bien sûr une base juridique. Ce sera un projet de loi ordinaire. Le texte sera présenté en Conseil des ministres d'ici le mois de décembre, si nous voulons tenir les délais. Et un examen au Sénat pourrait être envisagé début janvier. Tout ça est effectivement encore à confirmer. Mais c'est un calendrier prévisionnel tout récent que je suis en train de vous livrer, qui nécessite encore probablement des ajustements. Mais cette consultation des Calédoniens, si nous voulons la faire dans les temps, puisque vous le savez, nous avons été en capacité de reporter les élections provinciales avec une date butoir à fin juin, tout ça nous amène donc à une consultation probablement au mois de mars.
Et dans la perspective de cette consultation anticipée, c'est-à-dire organisée avant l'adoption de la loi constitutionnelle, Naïma Moutchou précise qu'un éclairage doit être apporté aux Calédoniens.
Tout le monde est conscient que cette consultation va nécessiter d'éclairer ceux qui vont voter. Et l'accord de Bougival est un accord cadre. Et il y a un certain nombre de questions qui vont se poser dans le cadre de cette mise en œuvre de l'accord. Et si on veut effectivement un scrutin qui soit sincère, pour que les Calédoniens puissent aller voter en conscience, il faudra probablement éclairer un certain nombre de choix. Un peu comme les référendums qui ont eu lieu il y a quelques années maintenant et qui ont nécessité un document préalable avec quelques indications, des questions et des réponses pour permettre aux Calédoniens de savoir le plus précisément possible quelles étaient les conséquences en cas de oui, quelles étaient les conséquences en cas de non. Un peu cette idée qui est aujourd'hui sur la table. J'y réfléchis encore à la meilleure manière dont on peut éclairer les Calédoniens au moment de leur vote, à l'architecture que ça peut prendre, mais c'est évidemment un sujet essentiel et nous y travaillons.
Et la ministre des Outre-mer a également apporté des précisions concernant le corps électoral qui sera appelé à participer à cette consultation anticipée. C'est en fait une confirmation.
Le corps électoral, c'est celui qui est prévu dans l'accord, puisque l'accord avait réglé la consultation déjà. Et les acteurs politiques s'étaient entendus sur ce corps électoral à l'époque déjà, donc au moment des discussions qui ont eu lieu au mois de juillet avec mon prédécesseur. Vous le savez, ce sont des questions qui sont d'une grande sensibilité, continuent de nécessiter évidemment un dialogue que je porte. À date, c'est le corps électoral qui est inscrit au sein de cet accord, et qui avait fait donc l'objet d'une entente entre les forces politiques.
L'accord de Bougival précise en effet très clairement que le corps électoral appelé à se prononcer sur l'accord sera celui de la liste électorale spéciale consultation. Et puis lors de cette audition, les sénateurs de la commission des lois ont également interrogé Naïma Moutchou sur l'abandon du projet de construction d'une nouvelle prison en Nouvelle-Calédonie. Un choix réaliste pour des raisons budgétaires et parce que le chantier prendrait trop de temps, a expliqué la ministre.
Bien sûr qu'il y a des ministres avant moi qui se sont engagés à la construction d'une grande prison qui remplacerait purement et simplement celle d'aujourd'hui. C'est au bas mot 500 millions d'euros, au bas mot, au minimum, donc probablement beaucoup plus, 700, 800 millions d'euros peut-être. C'est 7, 8 ans, peut-être 10 ans de construction avec le problème de foncier qu'on connaît par ailleurs sur le territoire. On n'a pas cet argent et on n'a pas ce temps. Compte tenu de la pression à l'intérieur, parce que la surpopulation atteint des niveaux consternants, et compte tenu des conditions de travail difficiles. Donc, à mes yeux, ce n'est pas la solution.
Pas de nouvelle prison dans l'immédiat, mais pour désengorger le camp Est, Naïma Moutchou a retenu d'autres solutions.
il y a des alternatives. On nous a proposé, avec le procureur et avec d'autres acteurs de l'institution judiciaire, qu'on puisse créer par exemple un centre de semi-liberté dans lequel on aurait d'autres profils. Ça permettrait de soulager un peu l'impression de sortir un certain nombre de détenus de la prison, 50, 100 profils déjà, pour les amener à autre chose. Et d'ailleurs, pour concentrer, puisque on serait sur la semi-liberté, concentrer un peu plus les activités d'insertion, de lien social, pour un public un peu moins difficile que les autres. C'est une bonne idée.
Extrait de l'audition de la ministre des Outre-mer par la commission des lois du Sénat, c'était dans le cadre du projet de loi de finances 2026.
Et lors de cette audition, la ministre des Outre-mer a reconnu que le budget 2026 des Outre-mer n'échappe pas au coup de rabot. Avec 2,9 milliards d'euros de crédits de paiement, sa dotation affiche une baisse de 18% par rapport au budget 2025. Mais elle a rappelé que son budget ne représente que 15% des dotations consacrées aux Outre-mer. Les 85% restants étant assurés par tous les autres ministères. Le député Nicolas Metzdorf est intervenu, lui aussi, sur les questions budgétaires dans l'hémicycle et en commission.
En séance publique, Nicolas Metzdorf a interpellé Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, sur la situation financière catastrophique de la Nouvelle-Calédonie et notamment sur la fameuse question du remboursement des prêts.
Vous savez qu'aujourd'hui, notre taux d'endettement est près de 400% à cause ou grâce des prêts que vous avez bien voulu octroyer à la Nouvelle-Calédonie. J'aimerais donc vous poser une question. Où en sont les discussions avec l'exécutif local sur le besoin en financement de la Nouvelle-Calédonie pour l'année 2026, puisque nos politiques publiques en dépendent?
Et dans sa réponse, la ministre des Comptes publics reconnaît que les prêts ou les avances remboursables ne sont plus adaptés à la situation.
On a bien compris que votre demande, c'est que nous ayons une attention continue aux finances de la Nouvelle-Calédonie que nous savons sous contrainte, et notamment parce qu'il y a eu les événements de l'année 2024, mais également parce que la filière du nickel est aujourd'hui en très grande difficulté. Et je pense qu'il faut toujours rappeler qu'il y a eu effectivement des événements sur votre île, mais également qu'on a un énorme enjeu économique qui d'ailleurs préexistait à une partie des difficultés ensuite institutionnelles et des violences qui ont été commises. Je ne vais pas revenir sur les éléments du rapporteur général, vous les connaissez. Les avances remboursables, vous le savez aussi, ne sont pas vraiment adaptées puisqu'il faut les rembourser en moins de 2 ans et ça ferait peser sur le gouvernement de Nouvelle-Calédonie une pression qui, je pense, ne serait pas adaptée à la situation. Je laisserai la ministre en charge des Outre-mer, Naïma Moutchou, et le Premier ministre, évidemment, vous préciser dans les prochains jours les suites du déplacement de la ministre des Outre-mer en Nouvelle-Calédonie. Nous n'avons pas prévu, évidemment, de vous laisser sans soutien. Vous savez que le sujet, c'est comment on fait aussi des réformes pour retrouver une forme de stabilité et de soutenabilité financière. Donc je pense que voilà, le travail va continuer.
Et le député Nicolas Metzdorf est également intervenu en commission des finances pour faire valider sa demande que chaque année, un point soit fait sur l'évolution du soutien à la Nouvelle-Calédonie.
Et parallèlement, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a sollicité officiellement l'AFD, l'Agence française de développement, pour la suspension temporaire du remboursement des prêts contractés ces dernières années, Elisabeth.
Et cela concerne à la fois les prêts contractés après les violences insurrectionnelles de mai 2024 et ceux liés à la crise Covid. Le gouvernement a donc écrit à Rémy Rioux, le directeur général de l'AFD, pour attirer son attention sur le fait que cette mesure est indispensable. L'exécutif écrit que cette suspension du remboursement des prêts permettrait de concentrer les moyens publics sur les priorités du moment, c'est-à-dire relancer l'économie, soutenir les entreprises, recréer de l'emploi et rétablir un climat de confiance après les événements qui ont frappé le territoire. Les explications de Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge de l'économie.
On a 8,4 milliards rien que d'intérêts à rembourser pour le budget 2026 de la Nouvelle-Calédonie. On ne peut pas, on doit aujourd'hui prioriser sur nos retraites, sur la relance économique. Et donc on a décidé au sein du gouvernement hier de demander officiellement à l'AFD et en copie au Premier ministre que, au moins pour l'année 2026, ces prêts soient suspendus. Le temps de deux choses. Un, de retrouver une activité économique normale et qui nous permet de rembourser ces prêts, puisqu'on ne peut pas avoir une baisse de 15% de notre PIB et d'avoir une capacité de remboursement. Et surtout, on a des discussions en cours dans le cadre du pacte de refondation de la Nouvelle-Calédonie sur une transformation de ces prêts en subventions. Donc, tant que ce contrat de désendettement de la Nouvelle-Calédonie n'a pas été établi, nous avons demandé que ces prêts soient suspendus pour nous donner de la marge de manœuvre pour relancer l'économie calédonienne, pour financer un certain nombre de régimes sociaux. Donc maintenant, on va attendre la réponse de l'AFD et des discussions avec l'État.
Une demande de suspension temporaire des remboursements en espérant toujours une transformation en subvention. D'autant plus, indique Christopher Gigès, que dans le cadre de la construction du budget 2026 de la Nouvelle-Calédonie, il est très compliqué d'avancer avec une charge aussi importante que le remboursement des prêts.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu viendra présider la séance de clôture du 107e Congrès des maires de France. Ce sera cette nuit pour nous au Parc des Expositions en région parisienne. Cette séance de clôture débutera par un message vidéo de Pascal Vittori, le président de l'Association des maires de Nouvelle-Calédonie et maire de Bouloux-Paris. Dans ce message, il doit alerter le Premier ministre et ses collègues maires sur la situation des communes calédoniennes. Lundi, lors de la journée consacrée aux communes des Outre-mer, Pascal Vittori était déjà intervenu par vidéo. Il avait évoqué le problème de l'insécurité et de l'ordre public dans les communes de Nouvelle-Calédonie. Il avait notamment remercié l'État pour son soutien en matière de sécurité qui a permis de rétablir l'ordre après les émeutes de mai 2024. C'est une information du quotidien La Voix du Caillou. Trois juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris chargés de l'information judiciaire ouverte contre les commanditaires présumés des émeutes de mai sont actuellement à Nouméa. Ils ont commencé à mener des interrogatoires de cadres et de militants proches de la CCAT. Frédérique Mouliava, l'ancienne directrice de cabinet de Rockwamitan, qui est de retour en Nouvelle-Calédonie depuis plusieurs mois après une période d'incarcération en métropole, a été l'une des premières à être entendue hier par les juges d'instruction parisiens. Joël Tchibaou, l'un des frères du député Emmanuel Tchibaou, a également été convoqué. Pendant une semaine, les magistrats entendront un certain nombre de militants indépendantistes, affiliés ou non à la CCAT, qui apparaissent dans la procédure. Les élus du Congrès étaient réunis en séance publique, une séance technique dans un hémicycle clairsemé. La séance a été présidée par la première vice-présidente du Congrès, Virginie Ruffnac. Les élus ont commencé la séance en évoquant la politique de l'eau, Jean-François Baudin.
Ils ont en effet étudié le projet de délibération pris en application de la loi du pays relative au domaine de l'eau publique et de la Nouvelle-Calédonie et à la protection de la ressource. Il porte sur la mise en œuvre des procédures de consultation et d'enquête publique, un texte technique qui permet de cadrer la mise en œuvre de ce volet de la loi. Comme lors de l'adoption de la loi du pays, les groupes rassemblements et loyalistes ont fait part de leur opposition au texte. Nadine Jalabert du groupe Rassemblement.
Lors de l'examen de la loi de pays, nous avions exprimé des réserves majeures sur la différence de traitement entre l'eau traversant les terres coutumières et celle traversant les terres de droit commun. Alors certes, cette distinction entre eau coutumière et eau de droit commun découle de la loi organique qui a introduit ce principe en lien avec la reconnaissance du statut particulier des terres coutumières. Un bien commun ne peut pas être géré selon des régimes différenciés au gré du foncier qu'il traverse. Sa nature mobile par essence rend cette différenciation non seulement illogique, mais aussi contre-productive en matière de gestion intégrée de la ressource. Pour nous, cette incohérence fragilise la construction d'une véritable politique publique unifiée de l'eau, pourtant indispensable à la reconstruction et à la résilience de notre pays. La délibération présentée aujourd'hui porte uniquement sur des procédures. Elle est techniquement nécessaire, mais elle n'efface en rien les réserves de fonds que nous avions formulées. Parce que ces incohérences persistent, nous nous abstiendrons.
Le rassemblement s'est donc abstenu. Les loyalistes ont voté contre. Le texte a finalement été adopté avec 23 voix pour. Les élus ont ensuite adopté la délibération prise pour l'application de la loi du pays relative à l'identification et à la cession des carnivores domestiques en Nouvelle-Calédonie. Cette délibération avait notamment pour objectif de mettre en place l'identification obligatoire des chats et des chiens par transpondeur ou tatouage, ce qui entraînera l'enregistrement de l'animal sur le fichier calédonien d'identification des chiens et des chats. Les élus ont aussi adopté une résolution visant à demander à l'État d'élargir à la Nouvelle-Calédonie le dispositif de la caisse de garantie du logement locatif social pour permettre aux bailleurs sociaux calédoniens de bénéficier de financements et d'appuis techniques. Seuls Calédonie Ensemble et l'Éveil océanien ont voté pour. Tous les autres groupes se sont abstenus. Enfin, les élus ont adopté un projet d'ordonnance qui modifie les règles du scrutin municipal en 2033 pour les communes de moins de 1000 habitants. Le vote se fera sur deux tours avec des listes paritaires. On retiendra qu'en fin de séance, ce matin, Philippe Michel a démissionné de la commission permanente. Il a été remplacé par Annie Raizé.
Après celui de Nouméa hier soir, place au conseil municipal de Dumbéa. Ce soir, les élus sont réunis depuis 17h30 à l'hôtel de ville. 10 délibérations sont à l'ordre du jour, dont le débat d'orientation budgétaire, mais aussi le projet de modification du plan d'urbanisme directeur pour faciliter différents chantiers, notamment à Coutio et à Héran-Béré.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. On démarre avec la réponse à notre question d'hier. À l'unanimité, les auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que les entreprises détruites lors des violences insurrectionnelles et qui choisissent de reconstruire ont raison de faire ce choix. Notre question du jour à présent, le Haut-Commissariat a-t-il raison, selon vous, d'interdire certaines armes blanches, comme les couteaux dits zombies ou les coups de poing américains? Si vous pensez qu'il a raison, vous tapez 1. Si vous pensez qu'il a tort, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Il est 18h, on marque une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Événement littéraire à l'Amirauté, le samedi 29 novembre de 9h à 16h. Le deuxième SAO, salon des auteurs en off. Débat sur la place des femmes à 9h30. Débat sur la géopolitique de la Nouvelle-Calédonie et l'Indo-Pacifique à 14h. Conteurs, ateliers d'écriture, stand-up, lecture, exposition de Stéphane Foucault, vente de livres, dédicaces avec 35 auteurs présents le samedi 29 novembre à l'Amirauté. Viens croquer un SAO et dévorer un bon livre. Entrée gratuite.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Info soir, Léo Fichou.
Comment les jeunes se sentent-ils aujourd'hui? Quelles sont leurs habitudes et comment les accompagner? La province Sud a présenté cet après-midi les résultats de la seconde enquête Bien dans mes claquettes. 3 ans après la première édition, les résultats mettent en avant un recul des violences et des addictions chez les jeunes, mais une santé mentale toujours fragile ainsi qu'une pratique des activités physiques et culturelles en recul. Charlotte Coulson.
Ils sont 2323 jeunes âgés de 14 à 15 ans et scolarisés en 3e dans un des établissements publics ou privés de la province Sud. En début d'année, au mois d'avril et de mai, le personnel de l'agence sanitaire et sociale leur a proposé de répondre à une enquête. Stylo en main, ils ont découvert sur leur bureau une série de 189 questions sur différentes thématiques, leur vie familiale, leurs loisirs, leurs habitudes individuelles ou encore leur vie au collège. 3 ans après la première enquête Bien dans mes claquettes, réalisée en 2022, les résultats pointent déjà une évolution dans les réponses des adolescents, notamment, vous l'avez dit, les consommations addictives. Pour la cigarette électronique, par exemple, 51% des jeunes interrogés avaient consommé dans les 30 jours précédant le questionnaire, contre 60% en 2022. Pour le cannabis, le chiffre passe de 14% en 2022 à 10% cette année, l'alcool de 32% à 24% et le tabac de 26% à 21%. Les violences auxquelles sont confrontés les jeunes sont également en recul, qu'elles soient verbales, physiques ou sur les réseaux sociaux, même si les violences sexuelles elle stagne. Et puis concernant le volet consacré à la famille, là aussi les chiffres ont évolué. Les résultats étaient présentés par Carmela Rebouya, chargée de mission stratégie jeunesse à la province Sud.
On voit quand même que plus de 40% effectivement passent plus de temps avec leurs parents après les cours. Et sur les sorties tardives, où les enfants, voilà, après 19h, sans adultes, ces chiffres-là se sont améliorés. C'est un indicateur important qui est encourageant dans le sens de l'accompagnement des jeunes, de l'encadrement et qui rentre moins dans des problématiques de violence et de comportement addictif. On peut aussi constater qu'en termes de sécurité, le sentiment de sécurité dans le quartier, dans le milieu de vie a diminué également. Donc est-ce qu'ils se sentent plus en sécurité à la maison, du coup consomment plus d'écrans? Mais ce qui est positif sur la question des écrans, même si les chiffres sont importants, c'est qu'on voit clairement que les parents souhaitent avoir une action là-dessus. Aujourd'hui, ils regardent plus le temps d'écran et les sites sur lesquels leurs enfants vont.
En revanche, l'enquête montre une diminution de la pratique d'activités physiques et culturelles. Les résultats sont aussi décevants, selon Carmela Rebouya, lorsque l'on parle d'inégalité de genre.
Il faut se rappeler donc que les jeunes qu'on interroge, ils ont entre 14 et 15 ans et donc ils ont déjà des marqueurs finalement d'inégalité de genre. On le voit sur le fait d'être victime plutôt les filles et auteurs plutôt les garçons. L'anxiété face au numérique, la peur des réseaux et d'être harcelé sur les réseaux sociaux, plus les filles. Un indicateur aussi qui nous alerte, c'est le fait que 58% des filles ne prennent pas de petit déjeuner le matin. Donc ça, c'est un élément aussi qui est important, c'est cette image de soi, cette estime de soi, de son corps. On voit qu'elle est quand même beaucoup plus marquée chez les filles que chez les garçons.
Ces données sont importantes pour la province sud car elles leur permettront à terme d'évaluer, voire de dimensionner les politiques publiques, comme l'explique Gilles Brial, deuxième vice-président de la province sud.
On se rend compte que les problématiques et les besoins, du coup, pour les régler, sont pas les mêmes dans une commune ou entre deux communes. Donc l'objectif, c'est vraiment faire du chirurgical. Par exemple, on se rend compte qu'il y a un besoin d'avoir plus d'activités sportives, mais qu'ils connaissent pas ce qui se passe autour. Donc on essaye, nous, de travailler avec les communes pour mettre à disposition les plateaux sportifs des collèges pour les associations communales, que ce soit le soir ou pendant les vacances, pour rendre justement plus attractif les activités autour des établissements scolaires.
Le rapport complet de l'enquête « Bien dans mes claquettes 2025 » est disponible sur le site internet de la province sud.
Le collège de Boulary a inauguré ce jeudi deux nouveaux espaces modernes entièrement repensés dans le cadre du programme Collège Nouvelle Génération. Le CDI et les salles Ulysse ont été transformés pour offrir aux élèves un environnement d'apprentissage innovant et inclusif. Ces aménagements marquent donc une avancée importante pour le bien-être et la réussite de tous les collégiens du Mont d'Or. Et ce, grâce à l'investissement de la province sud à hauteur de 80 millions de francs. Gilles Brial, deuxième vice-président de la province sud.
On voulait flécher une partie de notre budget pour que ce soit des projets portés par la population. C'est ce qu'on a fait avec le budget participatif, mais c'est ce qu'on fait également avec le collège Nouvelle Génération, où ce sont les équipes éducatives, les élèves, les parents d'élèves même parfois, et qui vont porter des projets d'amélioration des conditions de vie dans les établissements scolaires, dans les collèges en l'occurrence, que ce soit l'accueil des parents, l'accueil des enseignants ou l'enseignement, que ce soit dans les CDI ou pour des salles de classe. Et donc, on a mis en place ces appels à projets depuis 2022 et les collèges y répondent et on améliore comme ça. Ces deux projets qui ont été portés par les équipes pédagogiques du collège de Boulary qui ont été lauréats et c'est un investissement de 80 millions pour la province.
L'inauguration s'est déroulée dans le CDI que les élèves apprécient déjà pour le calme, la fraîcheur et les différents espaces qu'ils proposent.
C'est vrai qu'il a beaucoup changé comparé à avant parce que déjà il y a la clim, puis il a grandi, des espaces en plus et plus de calme je trouve.
Je le trouve très bien, il est magnifique aussi. Avec toutes les décorations que les classes ils ont pu faire.
Bah, comparé à l'ancien, je le trouve vraiment très beau. Il est très spacieux. Et moi, personnellement, mon coin préféré, c'est quoi manga.
Je trouve génial. On peut lire des nouveaux livres et des nouveaux mangas. Et aussi parce que là, la clim, je peux me détendre.
Moi, je trouve qu'il est très grand. Il est magnifique. Ils ont bien coloré le truc. Il a de bonnes couleurs. Bah, je trouve ça bien qu'ils aient catégorisé les trucs, mais en laissant beaucoup d'espace.
Un nouveau CDI tout neuf, lumineux et modulable, mais aussi donc des salles Ulysse modernisées, apaisantes et adaptées aux besoins spécifiques des 24 élèves concernés. Le début d'une restructuration totale du collège de Boulary, nous a dit la nouvelle directrice Didia Lefebvre. Dans l'actualité de ce jeudi également, la présentation ce matin à la station N de Nouville du projet Campus N, un projet financé dans le cadre du programme France 2030, Charlotte Coulson.
Campus N est un projet porté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui a pour ambition de développer et de coordonner la formation au numérique afin d'augmenter le nombre de professionnels qualifiés sur le territoire. Un projet qui s'inscrit, vous le disiez, dans le programme France 2030. Écoutez Christopher Gigès, membre du gouvernement chargé de l'économie et du numérique.
On a candidaté au projet France 2030 métier d'avenir pour pouvoir bénéficier d'une subvention et d'un accompagnement. On a été lauréat de ce projet. On était en concurrence avec de nombreuses collectivités et de régions métropolitaines et la preuve que marcher ensemble entre le public et le privé, ça nous permet d'obtenir des choses. Donc c'est vraiment un outil de diversification de l'économie calédonienne et de création de nouveaux emplois. Ça participe aux outils qu'on met en place depuis maintenant longtemps sur la filière numérique. On a eu la station N, on a eu des différents appels à projets qui ont été mis en place. Dans le plan stratégique sur l'économie numérique qui a été adopté par le gouvernement, la formation professionnelle est un axe majeur. Donc en fait, on décline le plan stratégique sur l'économie numérique pour que cette filière se développe encore plus.
Le projet Campus N est porté par le gouvernement en partenariat avec un consortium composé de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, du vice-rectorat, du FIAF, le Fonds interprofessionnel d'assurance formation, et de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie. La CCI qui était représentée ce matin par Pierre Massenet, le PDG de CIPAC.
On a des besoins dans tous les domaines du numérique, que ce soit les métiers basiques ou les métiers plus avancés. On a des besoins. Alors la cybersécurité et l'IA sont on va dire, à la mode en ce moment, on en parle beaucoup, mais le numérique, c'est énormément plus large et on a des métiers qui sont en tension sur l'ensemble des domaines du numérique. Donc ce sont des bonnes filières d'avenir pour les jeunes et je pense qu'il faut qu'on arrive à les promouvoir et qu'on ait une offre qui soit adaptée pour former les jeunes calédoniens et calédoniennes dans le futur sur ces métiers.
J'ajoute que ce projet Campus N, d'un coût total de près de 357 millions de francs, est financé à hauteur de 238 millions dans le cadre du programme France 2030.
Dans une semaine, l'association Femmes Chefs d'Entreprise va fêter ses 40 ans d'existence. Plusieurs représentants de l'association étaient les invités des Jeudis de l'économie ce midi. Elles ont parlé de la place des femmes dans les entreprises et notamment dans des postes à responsabilité. L'occasion également d'annoncer la tenue d'un colloque jeudi prochain à la CCI pour fêter les 40 ans de l'association. Un colloque intitulé « De pionnière à visionnaire » que nous a présenté Dominique Nixon, membre de l'association.
Alors, trois tables rondes prévues. La première table ronde, ça va être nos pionnières. Deuxième table ronde, les visionnaires, où on va parler d'IA, de beaucoup de thématiques actuelles. La troisième table ronde sera sur l'ouverture régionale et internationale. On aura une présence internationale avec la présence de la présidente FCE du Queensland, donc qui sera avec nous sur ce colloque. Et puis, Madame Roger Lacan, qui est l'ambassadrice de France pour le Pacifique.
Et comme chaque semaine, vous pouvez retrouver l'intégralité des Jeudis de l'économie sur rrb.nc. On continue de parler des rendez-vous d'antenne Radio Rythme Bleu avec Cap sur la pêche. Pour la troisième fois, la Chambre d'agriculture et de la pêche organise une matinée dédiée à la pêche professionnelle. Ce sera ce samedi de 7h30 à 13h30 sur le quai des pêcheries à Nouville. Ce sera l'occasion pour les Calédoniens de retrouver un marché 100% mangeons local avec évidemment les produits du lagon et du large. Cap sur la pêche, nous en parlerons demain matin à 7h30. Notre invité sera en effet Benoît Beliaef, élu à la Chambre d'agriculture et de la pêche. Et puis demain midi, ce sera au tour du magazine Transparence. Après l'officialisation de sa sortie du FLNKS, c'est le président de l'UPM, Victor Tutugoro, qui sera donc l'invité d'Elisabeth Noir dans ce magazine Transparence. Il sera interrogé sur cette décision de départ du FLNKS prise lors du 42e congrès de l'UPM, mais aussi sur la visite de la ministre des Outre-mer ou encore sur la mise en œuvre de l'accord de Bougival. Victor Tutugoro, invité de Transparence, est à suivre demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. Avez-vous réalisé votre test de tolérance au glucose dernièrement? Une piqûre au doigt, quelques secondes d'attente et vous savez si oui ou non vous êtes potentiellement touché par le diabète. Il était d'ailleurs possible aujourd'hui de se faire dépister. Une journée de sensibilisation s'est déroulée au Médipôle de Dombéa, Charlotte Coulson.
C'était le 14 novembre dernier, la journée mondiale du diabète. L'événement est relayé sur le territoire, car en Calédonie, si l'épidémie de diabète est contenue, cela ne signifie pas pour autant que la population calédonienne est épargnée. Au contraire, mais depuis la précédente enquête de santé réalisée dans les années 90, son évolution est relativement faible, comme l'explique Dominique Megrawa, médecin à l'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie.
Les chiffres n'ont pas explosé puisqu'on est passé de 9% à 11%, là où l'épidémie en métropole a doublé, c'est-à-dire que les chiffres chez l'adulte en métropole sont passés de 3% à 7% dans le même temps. Donc là où ça a doublé en métropole, ici les chiffres sont maintenus à peu près les mêmes, donc ça c'est en population. Mais il y a la face émergée de l'iceberg, c'est-à-dire que cette maladie, le diabète, c'est surtout une maladie insidieuse, c'est-à-dire que pendant une dizaine d'années, on ne ressent rien et ce diabète passe inaperçu. Et donc, dans les années 90, les trois quarts des patients étaient diabétiques et l'ignoraient. Aujourd'hui, on a fait reculer ce chiffre puisque seulement 18% des diabétiques s'ignorent, donc presque tous les diabétiques sont rentrés dans la filière de soins et peuvent ainsi être pris en charge et éviter les complications redoutées et redoutables.
Aujourd'hui, Les patients ont donc pu échanger de 9h à 15h dans le hall du Médipôle avec des médecins, des personnes diabétiques, des diététiciens. 270 dépistages ont été réalisés et ont permis de déceler 4 cas positifs de diabète.
Un timbre pour célébrer la Journée internationale du droit des enfants. Il a été présenté cet après-midi par le gouvernement et l'OPT qui se sont associés pour la création mais aussi la production de ce timbre. Jean-François Baudin.
Oui, ce n'est pas un hasard s'il a été présenté en ce jour où les droits des enfants sont mis en avant. Baptisé 1000 premiers jours de la vie, il se veut le symbole de l'engagement collectif de la Calédonie en faveur de la petite enfance et de la protection des plus vulnérables. Un timbre, ce n'est pas grand-chose, mais il participe à la promotion du territoire. Même si l'envoi de lettres est en baisse de vitesse, le monde des collectionneurs est lui très actif, rappelle Isabelle Blanc-Mattet, directrice du Postal à l'OPT.
C'est un timbre qui est hors programme, donc c'est aussi quelque chose pour nos philatélistes qui est important. Le courrier est un peu en baisse de vitesse, par contre la philatélie, c'est quand même des collectionneurs. Donc, au niveau international, on a des collectionneurs qui sont encore bien présents. Un timbre, ça fait complètement voyager à Nouvelle-Calédonie. C'est un vrai vecteur de communication, de transmission de nos valeurs, de faire connaître la Nouvelle-Calédonie à travers nos timbres. D'ailleurs, les timbres, ils illustrent aussi la Nouvelle-Calédonie. On fait des timbres plus orientés sur le tourisme, des timbres qui vont être sur le patrimoine. Donc on a différentes thématiques qui permettent de promouvoir la Nouvelle-Calédonie à l'international.
Les bénéfices de la vente de ce nouveau timbre seront reversés à l'association Nos bébés kangourous, présidée par Ophélie Muret. Ils vont permettre à l'association de continuer à mener ses actions.
Elles sont essentiellement orientées au sein du service de néonatologie pour pouvoir améliorer le mieux-être hospitalier des parents et notamment des mamans. Donc on va par exemple pouvoir faire bénéficier de séances de PBA ou de shiatsu au sein de la néonate. Mais on a aussi tout un volet d'investissement pour pouvoir offrir du matériel pour les mamans au sein de la néonate. Donc l'achat de lits par exemple, c'est très 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 varié. Et puis tout autour de ça, on a aussi d'autres actions qui se mettent en place à l'extérieur.
La sortie de ce timbre s'inscrit pleinement dans le programme des 1000 premiers jours de la vie porté par le gouvernement, notamment Isabelle Chamboreau en charge du secteur. Un programme, rappelle-t-elle, qui se décline de plusieurs façons.
Ça peut passer par des subventions, par exemple, aux crèches. Puis il y a beaucoup de crèches qui mettent en place des menus adaptés qui sont équilibrés pour les bébés. Et on a formé aussi avec les crèches plus de 700 personnels qui travaillent dans la petite enfance. Ça permet d'avoir des approches en termes de santé, de motricité, mais aussi malheureusement dans des périodes plus compliquées, peut-être des signalements sur la violence que peuvent subir certains enfants. Et puis aussi des outils. On a sorti un nouveau livret de parentalité qui est remis dès l'annonce de la grossesse et qui permet aux parents à la fois d'avoir des informations médicales, de suivi de la grossesse, mais aussi plus largement à l'intérieur, il y a des informations sur la petite enfance, sur les violences intrafamiliales. Donc voilà, c'est vraiment des outils et une approche globale et un appel à projet qui nous a permis de récompenser une quinzaine de projets cette année. Et là, on est vraiment sur les actions de terrain qui sont développées par les partenaires.
Et ce timbre est en vente sur le site postalshop.nc. Il est aussi personnalisable à la demande pour des événements ou alors pour figurer par exemple sur des faire-part de naissance.
Il est 18h17. On marque une seconde pause dans ce journal. On parlera sport juste après, mais aussi de l'actualité dans la région.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Le jeu Mac Family Voyage revient chez McDonald's du 18 novembre au 12 janvier. Collectionnez les cartes Mac Family et tentez de gagner plus de 6 millions de francs de cadeaux. Au programme, 3 voyages de rêve à Tahiti, en Thaïlande et à la Gold Coast. Mais aussi des PC, des Samsung S25, des Nintendo Switch 2, des Boombox et des milliers de produits McDonald's. Alors, prêt à tenter votre chance? Rendez-vous dans votre McDonald's préféré.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu? Confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal avec Léo Fichou.
A-t-on des nouvelles de Monsieur de La Pérouse ? Cette phrase attribuée à Louis XVI alors qu'il s'apprêtait à monter sur l'échafaud montre l'intérêt que le roi de France portait à l'expédition du navigateur français. Il ne saura jamais que les deux bateaux de l'expédition, la Boussole et l'Astrolabe, se sont échoués sur les récifs salomonais de l'île de Vanikoro 3 ans plus tôt. Une histoire qui continue aujourd'hui de susciter beaucoup d'intérêt. Le président de la République, Emmanuel Macron, a donné son accord pour la construction d'un musée La Pérouse à Vanikoro. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
La décision d'Emmanuel Macron a été confirmée lors de l'entretien que l'ambassadrice de France dans le Pacifique, Véronique Roger-Lacan, vient d'avoir à Honiara avec le Premier ministre par intérim des îles Salomon, Frédéric Cologhetto. La discussion a très largement évoqué la nécessité de préserver ce qu'ils ont appelé ce site patrimonial d'une grande importance historique et culturelle pour nos deux pays, pour le Pacifique et pour le monde. C'est une mémoire partagée de l'humanité, a déclaré la diplomate, avant de se féliciter de coopérer avec les îles Salomon dans la réalisation du projet. Frédéric Cologhetto a évoqué quant à lui la nécessité d'ouvrir un aéroport à Vanikoro afin d'en améliorer l'accès. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Cette triste nouvelle à présent que nous avons appris ces dernières heures, la disparition à seulement 36 ans de Natsumi Wainebengo. Elle luttait depuis plusieurs années contre la maladie. Natsumi Wainebengo était très rapidement devenue une figure emblématique du basket et plus généralement du sport calédonien de par son investissement, notamment dans le développement du sport féminin. De nombreux messages lui rendant hommage ont été postés sur les réseaux sociaux. Le président du CTOS, Christophe Dabin, parle d'une femme de qualité, un pilier du sport calédonien.
C'est vrai que Natsumi était une femme totalement engagée. Depuis 2024, elle était rentrée au CTOS en tant que vice-présidente parce que il était important pour moi que des femmes dynamiques, engagées, puissent s'inscrire un petit peu dans le sport calédonien et puissent aussi, on va dire, apporter des choses et des visions qui sont nouvelles. Natsumi était aussi un pilier de notre équipe de Nouvelle-Calédonie parce que, en tant que bénévole, elle a participé à tous les Jeux depuis 2015, souvent pour gérer le village, souvent pour apporter, je veux dire, cette idée de cohésion, de fraternité, d'unité au sein de l'équipe de Nouvelle-Calédonie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on perd quelqu'un qui part naturellement trop tôt, vraiment trop tôt, et on ne peut que regretter son départ. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on perd vraiment une femme de qualité qui n'a jamais regardé à s'engager, à donner de son temps, surtout pour que on puisse pratiquer de l'activité sportive sur l'ensemble du territoire.
En plus de ses fonctions au CTOS, Natsumi Wainebengo était chef de la cellule vie associative à la mairie de Dumbéa. Le maire Johan Lecourieu rappelle dans un communiqué son professionnalisme, sa disponibilité et sa bienveillance. Avant d'écrire, je cite, que son souvenir restera présent dans les mémoires et dans le cœur de chacun. Fin de citation. Du football avec le tirage au sort des barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde ce soir au siège de la FIFA en Suisse. Dès 23h heure de Nouméa, la Nouvelle-Calédonie connaîtra son adversaire lors des demi-finales de ces barrages. Ce sera la Bolivie, la Jamaïque ou bien le Suriname. Et en cas de victoire, les Kagous seront opposés en finale à la République démocratique du Congo ou bien à l'Irak. Les barrages intercontinentaux auront lieu fin mars au Mexique. Le sport dans la région à présent avec du futsal, la SPTT n'a plus son en main. Lors de la quatrième et avant-dernière journée de la Ligue des champions d'Océanie, les Calédoniens se sont inclinés 5-2 contre les Néo-Zélandais du Waikato Rapids. On écoute le coach de la SPTT, Michel Wassine.
Oui, la Nouvelle-Zélande avait un niveau au-dessus. On a bien vu dès le départ. On a manqué un peu de rigueur au départ de concentration en pay cash sur les trois premiers buts. Donc après, c'était compliqué après pour nous de revenir au score. Mais dans l'ensemble, on a tout donné. Je pense qu'il n'y a pas de regret sur ce match-là, peut-être sur les matchs précédents, oui, mais sur ce match-là, on a tout donné. Bon, après, à ce niveau-là, ça paye cash les petites erreurs, c'est ce qu'on n'a pas su rectifier au départ. Dans l'ensemble, je ne suis pas déçu des garçons, ils ont tout donné, mais c'est plus les petites erreurs qui ont payé cash, et voilà, ça fait la différence à la fin, mais 5-2, c'est pas si ça reflète l'ensemble du score, mais c'est comme ça, c'est le football, il faut accepter le futsal. Ça, il nous reste un match demain, on va tout donner, on est venu ici pour une compétition. On a laissé loin nos familles, nos amis, notre travail. On n'est que des amateurs. Donc on va tout donner demain avec l'ensemble.
Et grâce à leur victoire, les Néo-Zélandais du Waikato Rapids sont assurés de terminer en tête du groupe et sont donc d'ores et déjà qualifiés pour la finale. Quatre équipes, dont la SPTT, peuvent toujours espérer décrocher la seconde place qualificative. Tout va se jouer lors des derniers matchs. Les Calédoniens auront l'obligation de gagner demain à midi contre les Papous du Golfe Comora Futsal Club. Et puis on termine sur le territoire avec du padel. Dès ce soir et jusqu'à samedi, l'Olympique de Nouméa organise trois tournois, un P100 et un P25 hommes, mais aussi un P25 jeunes. Près de 100 joueurs seront réunis sur les 5 pistes du club. 18h passées de 23 minutes déjà. Après le sport, on parle météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous Pierre.
Vigilance jaune, forte pluie, orage pour des pluies localement fortes et parfois orageuses pouvant atteindre jusqu'à 50 mm en 6 heures, notamment sur la pointe nord et la côte est au nord de Thiot durant la nuit de jeudi à vendredi, puis sur la côte ouest au nord de Païta demain après-midi. Cette nuit sur la côte ouest, quelques averses persisteront dans un ciel nuageux, parfois accompagné d'un coup de tonnerre sur le nord-ouest, avant de s'estomper et de laisser place à quelques éclaircies laissant entrevoir les étoiles. Ailleurs, le ciel restera très nuageux avec des averses parfois soutenues sur la côte est et localement orageuses sur le nord-est et la pointe nord en première partie de nuit. Le vent d'est à est-sud-est mollira entre 5 et 10 nœuds sur l'ouest et 10 à 15 nœuds ailleurs avec des rafales possibles à proximité des averses dans le nord. Les températures minimales resteront stables, comprises entre 21 et 25 degrés. Demain matin, le soleil résistera sur l'ouest malgré quelques gouttes en fin de matinée. Sur le reste du territoire, les nuages domineront et donneront déjà de bonnes averses, notamment sur la côte est. Le vent d'est sud-est à sud-est soufflera de 10 à 15 nœuds et se renforcera au-delà de 15 nœuds sur le sud-ouest en fin de matinée. Sur l'ouest, il restera plus faible, entre 5 et 10 nœuds de sud-ouest. Et côté marée, la mer sera haute ce soir vers 19h45 avant de redescendre dans la nuit autour de 2h07, puis de remonter vendredi matin avec une pleine mer prévue vers 8h47.